bien, merci à toutes et à tous. Dernière séance du séminaire dans l'histoire, hein? Mais pour laquelle on a prévu, et merci à Chloé, Catherine et Nisrine pour leur réponse à cette proposition de retour sur certaines choses dans le séminaire et autour du séminaire, puisque ça a été un peu l'occasion, on le savait avant, mais de revenir en fin d'année, ça a été l'occasion de se demander un peu dans quel contexte ou dans quelle constellation de projets présentant des airs de famille ou pas, nos discussions avaient pris place. Du coup, en fait, la première question, même si elle s'adresse à vous, ça serait de revenir, enfin, de nous redire quelques mots sur ce que vous étiez ou ce que vous êtes venu chercher, ce que vous cherchiez qui faisait que le programme qu'on a fait répondait à une quête, en quelque sorte. Voilà, donc sans plus attendre, en fait, je vous passe la parole. Mais on la reprend, hein. Ne monopolisez pas le micro, s'il vous plaît. En fait, il y a le côté tour de table, sauf qu'il n'y a pas de table, à part celle-ci. C'est toujours un peu formel.
Vous dites en commençant que c'est la dernière séance, c'est la dernière des dernières, ou c'est la dernière de cette année? Bon.
C'est la dernière.
La dernière des dernières. D'accord. Ben moi, je viens dans ce séminaire depuis plusieurs années, donc je n'ai pas changé mon attente. Mon attente, c'était de rencontrer des gens qui mariaient la question de l'usage des langues, de la traduction et des sciences sociales, qui pour moi, selon mon analyse de sociologue, est complètement marginale dans le métier des sciences sociales. Même complètement ignoré par la majorité. Donc, c'est ça l'originalité de ce lieu. C'est pour ça que j'ai continué de venir et j'espère que ça redémarrera sous une autre forme parce que j'ai encore envie que ce thème qui est totalement minoré soit repris par quelques-uns et quelques-unes.
Moi, j'ai. Bon, c'est bon. Bon. Moi, ça fait 2 ans que je crois que je viens de façon un peu irrégulière et que je reviens toujours parce que, en tant que. N'étant ni une ancienne de l'EHESS, ni vraiment dans la recherche traductrice en sciences sociales, je me suis toujours sentie accueillie. Il y a toujours eu cette dimension de parler pas uniquement à un cercle restreint, mais à un grand nombre. Et je trouve que depuis quelque temps, il y a beaucoup d'initiatives autour de la traduction en sciences sociales qui, moi, est pile poil dans mon centre d'intérêt et que c'est arrivé à peu près au moment où je me suis intéressée. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un séminaire, même si je n'ai pas pu venir à toutes les séances, que c'était vraiment une initiative formidable. Et bah, j'espère qu'elle renaîtra sous une forme ou une autre.
Bonjour, moi je viens depuis plusieurs années aussi de manière assez irrégulière, malheureusement. J'aurais souhaité pouvoir venir à toutes les séances, mais voilà, comme tout le monde, on est pris. J'ai trouvé l'initiative de ce séminaire vraiment passionnante. Moi je travaille à Sciences Po, au Centre de Relations Internationales, et je m'occupe des collections d'ouvrages en anglais. Et je me trouvais assez isolée, en fait, en dépit de l'institution, etc., mais à m'intéresser aux questions... linguistique et SHS, comment traduire un texte, qu'est-ce que la traduction, aller au-delà de la simple traduction, comment on écrit dans plusieurs langues et comment on pense dans plusieurs langues. Et de fait, j'ai trouvé que ce séminaire répondait vraiment à des attentes que j'avais. Et il m'a également permis de retrouver des personnes que j'avais rencontrées par ailleurs dans le réseau Médicis, notamment, que vous connaissez peut-être, c'est le réseau des professionnels de l'édition. Du service public. Donc Chloé, par exemple, il y avait un groupe multilinguisme qui n'avait pas donné grand-chose au final. Et Catherine, que j'avais rencontrée par le biais du série, parce que je l'avais fait travailler en tant que traductrice. Et du coup, l'association ATES, à laquelle je contribue maintenant. Et donc, je regrette d'entendre que c'est la fin d'un séminaire, mais effectivement, ce serait intéressant de pouvoir conjuguer des efforts sous une autre forme, peut-être, parce qu'il y a certainement encore beaucoup de choses à dire et à penser. Merci.
Moi, c'est la première fois que je viens. Je viens pour rencontrer les membres de l'ATES. Je viens de m'inscrire. Donc, Lise, voilà. Je suis traductrice, j'étais anthropologue et je me suis reconvertie dans la traduction il y a quelques années. Et j'ai traduit un peu des choses en sciences sociales. Et puis je fais des romans policiers, enfin je traduis des romans policiers aussi un petit peu. Et voilà, je suis un peu isolée malgré tout dans la traduction en sciences sociales. Et puis il y a pas mal de mésaventures en fait. Avec des gens qui connaissent pas trop la traduction, les tarifs de la traduction, les statuts du traducteur. Enfin, bon, c'est pas toujours évident de faire valoir les choses, et donc c'est pas mal de faire partie, je pense, d'une association auquel les gens peuvent peuvent se référer. Je fais partie d'autres associations aussi, mais voilà.
Alors moi, je suis venue cette année au séminaire et parce que la traduction est apparue dans ma recherche et que je voulais avoir une idée de plus ces rapports entre traduction et recherche. Le séminaire m'a permis d'avoir une petite fenêtre sur des questions un peu plus vastes et de continuer à faire évoluer ma réflexion.
Bonjour, alors moi, j'ai découvert le séminaire cette année aussi. Et en tant que jeune traductrice et ayant étudié les sciences sociales, évidemment, ça m'a intéressée de voir un croisement entre les problématiques de la traduction et de la recherche et des questionnements assez, assez généraux, de fond aussi, etc., à partir de cas spécifiques, et la rencontre aussi entre des acteurs, c'est-à-dire les traducteurs, des auteurs, des chercheurs, etc. Et puis, bien sûr, c'est aussi une porte ouverte à des rencontres intéressantes et un partage, parce que c'est vrai qu'en tant que traducteur, on est parfois un peu isolé. C'est toujours important de se poser des questions sur sa pratique et de rencontrer peut-être des gens qui travaillent sur la traduction et qui y réfléchissent, mais qui ne sont pas traducteurs eux-mêmes et des traducteurs. Voilà, donc j'espère que ça continuera sous une forme ou une autre, en tout cas, parce que c'était vraiment très intéressant. Merci.
Moi, en fait, j'ai commencé cette année aussi. Je suis en master 1. Et du coup, en fait, c'était vraiment, initialement, c'était l'initiative de ma directrice de recherche qui est spécialisée sur l'islam chinois et qui m'a conseillé, en fait, comme je joue sur plusieurs langues, en fait, d'intégrer le séminaire pour me donner une fenêtre par rapport à mes recherches qui m'ont aidé à trouver des pistes. C'est-à-dire, en fait... À la fois je joue sur l'anglais, le français, le japonais, l'arabe, et ça me permettait en fait de réfléchir à comment aborder les traductions pour certaines notions qui apparaissent dans certains mondes et comment les rendre. Et ça m'a permis de réfléchir. J'ai trouvé intéressant certaines séances qui se rattachaient, notamment la dernière en fait sur le monsieur dont je ne me souviens plus le nom qui est venu du Maroc et qui m'a aidé. Qui m'a aidé à avoir certains points par rapport à mes recherches. Donc, je trouvais ça intéressant. Voilà. Merci beaucoup.
Moi, en tant qu'étudiante, nouvelle étudiante en master 2 en linguistique à l'EHESS, je trouvais que c'était important de voir déjà que il y a d'autres professions qui peuvent découler de la recherche, notamment la traduction, et que c'est pas un atome, que la recherche n'est pas un petit atome éloigné de toutes les autres. Rien que le fait de penser physiquement le livre et de penser physiquement la traduction, je trouve que c'était intéressant. Et c'est vrai que même quand on commence à faire de la recherche, on se rend compte qu'il y a beaucoup de colonnes d'articles qui sont écrits en anglais. Et qui ne sont pas forcément traduits, donc ça permet aussi de savoir pourquoi et de se questionner sur ces rapports entre les différentes langues et aussi de pouvoir comprendre pourquoi est-ce que certains textes sont traduits plutôt que d'autres et de se poser les questions par rapport aux articles qu'on a entre nos mains finalement.
Merci beaucoup pour ces premiers retours qui nous aident beaucoup et qui sont très positifs. Tu veux commencer, Marc ? Oui, bon, bah, j'y vais alors. Oui. Juste, bon, alors c'est vrai que c'est la dernière effectivement du cycle des 3 ans, puisqu'on a fait quand même un programme un peu intensif. Hein. On a invité beaucoup de monde. C'est pas qu'on veut pas le continuer, c'est juste que nos différents emplois du temps pour l'année prochaine ne nous permettent pas de consacrer autant de temps qu'on l'a fait cette année. Mais bien sûr, on va continuer chacun d'entre nous cette réflexion. Et voilà, on a peut-être déjà une proposition pour l'année prochaine, mais ce ne sera pas sous la forme du séminaire, enfin, en tout cas pas pour nous. Mais voilà, c'est juste un jalon. Donc, ce qu'on s'est dit, juste pour reprendre un peu le bilan, qu'est-ce qu'on a, si on a quelques directions communes de ce qu'on a fait cette année, hein, si on prend juste cette année. Pour ma part, j'ai deux axes qui m'ont semblé forts et qui peuvent servir de point pour dresser un petit bilan. Peut-être sans le vouloir, il y a deux questions importantes qu'on a maniées. C'est la question de traduire et introduire une pensée à un auteur, des textes. Cette dimension, on l'a traitée dans plusieurs séances. Et la question édition globale versus bibliodiversité ou bien les savoirs de la traduction. Hein. Donc, dans la première direction, on a eu différentes séances sur les médiateurs, sur traduire Bourdieu en Russie. Donc, médiateur introducteur, on a traité cette. On est revenu sur des périodes plus anciennes, comme par exemple à travers la question de la lingua franca en Méditerranée, en se demandant ce que pouvait être une langue voilà, qui n'est pas une langue culturelle, une langue identitaire. On a eu cette question du plurilinguisme chez les savants polonais aussi, donc des figures de médiateurs, en fait, pas classiques au sens où on pourrait, comme ça, spontanément, depuis notre contexte, le penser. Donc, en fait, on a travaillé cette question des médiateurs en la replaçant dans des contextes soit géographiques, soit historiques différents, qui nous permet aussi de vraiment s'interroger sur ces notions. Dans cette idée, moi, je mettrai aussi la question de la présentation qu'on a eue sur de la revue Tracée, d'ailleurs, avec leur formule « traduire et introduire », où là, on était vraiment sur notre contexte actuel des sciences sociales en France. Qu'est-ce que ça veut dire que de proposer des textes qui viennent d'un contexte totalement autre, comme les sciences sociales d'Asie du Sud-Est ? Et la revue Tracée a introduit ces dossiers. Ils nous ont expliqué comment ils s'y prenaient. Et puis, on a eu aussi la séance avec Rebecca Beers, qui est directrice des droits aux éditions Perrin. Donc là, on était sur un domaine assez plus opérationnel, concret, des médiateurs de la traduction, donc dans l'édition. Et les traductions, les textes ne circulent pas tout seuls. Il y a des personnes qui les font cheminer, y compris de façon commerciale. Hein. Donc ça, c'est important de s'en rendre compte. Plusieurs d'entre vous, là, ont parlé du fait d'avoir eu ici, dans le séminaire, des paroles venant de positions différentes. Et ça, pour nous, c'était très important au début de se dire, on va faire un séminaire où on aura pas seulement des chercheurs ou des auteurs qui vont discuter ces questions, mais aussi des traducteurs, des éditeurs et des documentalistes. Alors, on l'a eu un peu moins pour ce qui est de la dernière catégorie de personnes, mais il se trouve qu'un certain nombre de personnes peuvent avoir plusieurs casquettes. Et ça, c'est intéressant, ou en tout cas, on peut avoir chacun une fois... y compris en tant qu'étudiant, une position d'auteur, une position de traducteur ou une position d'éditeur. Hein. Donc, et on ne réagit pas pareil vis-à-vis de la traduction dans les différentes fonctions. Donc ça, c'était une des directions. Et l'autre fil, qui est aussi quelque chose qui est revenu, alors cette année particulièrement, mais aussi les autres années, c'est cette tension entre l'édition globale, comme on la voit se dessiner aujourd'hui, essentiellement par le biais de l'édition en anglais, mais pas seulement, le français aussi, quelquefois, joue ce rôle, et l'idée de publier en plusieurs langues ou bien d'être attentif au savoir de la traduction. Donc, est-ce que c'est une tension? Est-ce que ça se rejoint? Est-ce que toute forme d'édition anglophone pour un public global est forcément en dehors de la problématique des savoirs de la traduction ou pas? On a vu que ce n'était pas forcément en opposition. Par exemple, avec la séance avec Thomas Griot, qui a parlé de son autotraduction de son texte pour un éditeur. Donc, c'est un historien des États-Unis qui a autotraduit son texte pour une édition chez Yale University Press. Et donc, effectivement, il fait passer son texte dans une maison d'édition avec une diffusion plus internationale vers l'anglais. Mais la question des savoirs de la traduction était bien présente dans sa démarche. Donc, voilà, on voit que c'est quelque chose d'intéressant à travailler. Juste encore sur cette idée, est-ce que c'est une opposition ou pas? Dans notre séance sur la bibliodiversité, où on a invité un certain nombre d'éditeurs éditeurs de livres et aussi des éditeurs de plateformes électroniques, on a constaté que cette question de l'édition globale est quand même quelque chose d'assez polysémique, c'est-à-dire que ça n'a pas du tout le même sens si on parle du point de vue d'un éditeur commercial ou bien d'une plateforme financée par des fonds publics. Et on a eu par exemple Pierre Mounier qui parlait qui récusait le terme de marché global des sciences sociales, y compris pour l'anglais, en disant qu'on est toujours sur des questions de public localisé. Donc ça, bien sûr, c'est intéressant de se demander où est le public pour qui on écrit. On a eu cette discussion avec Kern aussi, pourquoi on traduit vers l'anglais les articles, pour quel public. Parce que même cette édition qui paraît la plus en dehors de tout circuit concret, c'est-à-dire circuit identifié d'édition et de production de livres, elle s'adresse quand même toujours à quelqu'un. Et donc, ça, c'est intéressant. Voilà, donc surtout avec le deuxième thème, mais aussi avec le premier, on a beaucoup touché de nouveau la question des transformations numériques et de l'impact des politiques d'open access et des transformations donc de la fonction éditoriale, de la valeur de la traduction. Ça, c'était aussi notre séance dans l'amphithéâtre, au moment de la nuit des idées. Donc, comment dans ce nouveau marché des sciences sociales, comment la traduction est une, quelle est sa valeur, y compris commerciale, quel sera le statut du traducteur avec la nouvelle introduction de formes de traduction automatique? Est-ce qu'on va payer moitié moins? Enfin bon, ces considérations sur le marché, je pense, c'était vraiment intéressante. Et on fait juste ouvrir des portes, enfin, on peut continuer à creuser. Alors, je vais passer la parole peut-être à Francisca sur ses directions.
Je ne sais pas si je vais répondre à ce que tu attendais de moi. Je suis encore en train de t'écouter. Je trouve que tu as très joliment retracé ce qui a été fait et ce qui étaient les motivations. D'ailleurs, peut-être qu'on a oublié dans la question à la salle les déceptions aux attentes que vous avez peut-être eues, parce que moi, j'aurais bien voulu dire lequel était mon point de départ et ce qui, pour moi, peut en découler encore comme une question supplémentaire. Et la seule chose que j'aurais dit autrement que toi, c'était peut-être que pour l'année prochaine, ce n'est... Pour moi, en tout cas, c'est moins une question d'emploi de temps qui fait qu'on ne fait plus les séminaires. C'est vraiment une cadence qui se ferme, mais je pense qu'on est tous, ou une séquence plutôt, et je pense qu'on est tous d'accord pour que ça continue d'une autre forme. Et ça a plutôt trait au fait que nos parcours ont quand même évolué. C'est-à-dire, pour moi, pour revenir, la question initiale est toujours restée, mais en même temps, elle s'est transformée. J'ai l'impression qu'on est quand même arrivé un peu ailleurs qu'au début. pour moi, le point de départ, c'était à la fois quelque chose de très concret. Donc, le fait que je m'occupe de cette bibliothèque allemande et tout ce qui était avec, c'est-à-dire un programme de traduction franco-allemand concret, avec toutes les difficultés politiques de subvention qui vont avec pour faire vivre un programme de traduction institutionnalisé, et l'invention de ce projet qui allait avec Penser en langue, qui était un petit peu en lien par rapport au titre à ce séminaire, qui lui aussi prend fin pour des questions purement institutionnelles ou dans des logiques de subvention. Mais ce qui me permet de faire quand même une annonce, parce que si vous le souhaitez, ou bien si vous ne le souhaitez pas, il faut me signaler, comme ça je vous raille de la liste, mais il y aura un autre événement que je vais annoncer déjà en novembre, et on va voir comment on peut l'intégrer. Le dernier grand colloque, Penser en langue, une sprache, denken, qui s'occupera cette année des archives de traducteurs, les fonds de traducteurs. Quelle trace laissent les traducteurs? Et quel statut épistémologique ou autre peut avoir cet héritage. Et ce colloque aura lieu en trois temps. On commence la semaine à Marbach. Marbach est une petite ville en Allemagne, mais qui héberge le plus grand et le plus important archive pour la littérature germanophone. Après, on aura une soirée ici à Paris. Et puis, on part à Caen, dans les archives de l'IMEC, pour continuer le travail là-bas. Et s'il y a des gens qui sont explicitement intéressés dans tout ça, n'hésitez pas à m'écrire, parce qu'il y a aussi encore des places libres. Et voilà, et sinon, il y aura une annonce officielle plus tard. Donc, pour moi, et donc je pense aussi pour nous, ce travail commencera à partir des endroits précis où on va se trouver, sans trop savoir où, forcément, mais ça va continuer. Et donc, mon intérêt du départ, c'était... quand même la question, parce que je viens de la littérature quand même, et ma question était plutôt, c'était toujours la question de la méthode, en ce qu'on appelle en Allemagne Literaturwissenschaft. Ce ne sont pas les études littéraires ou la critique littéraire, c'est la Wissenschaft, c'est les sciences de la littérature. Il y a cet héritage-là. Donc quel statut a la méthode par rapport à la pratique en littérature? Plus précisément, pour moi, c'est la littérature générale et comparée. Et c'est pour ça que j'ai apporté des livres, parce que je me suis remise à lire donc les livres qui sont aujourd'hui, bien sûr, déjà très ancrés, mais quand même, Emily Apter, Against World Literature on the Politics of Untranslatability. Je m'excuse pour les anglophones ici. Ou Emily Apter, The Translation Zone.
Tu parles d'elle?
Ah, pas, parfait. Si tu veux, oui, c'est à la bibliothèque de toute manière. Donc, qui... quelqu'un qui fait littérature générale et comparée aux États-Unis et qui repense la littérature générale et comparée, ou qui essaie de repenser la littérature générale et comparée en disant que, de toute manière, jusqu'à présent, la littérature générale et comparée était sous le dogme de la traduction, si on veut, c'est-à-dire du globe. Bon, elle vient aussi des États-Unis. C'est-à-dire, elle voit la littérature toujours déjà traduite, et ne prête pas suffisamment d'attention, si on veut, aux micro-littératures qui se font dans leur langue et à tout ce qui se passe dans ces décalages infimes qui existent entre les langues. Et elle essaie de réécrire l'épistémologie de la littérature, Wissenschaft, si je peux me permettre d'introduire ce mot allemand, à partir de ce changement de perspective. Je trouvais ça très intéressant, c'était mon point de départ que j'essaie maintenant de, je ne sais pas si formaliser le bon mot, mais de mettre davantage au travail, dans ce colloque par exemple, mais aussi, et ça aussi peut peut-être être un chantier éventuellement aussi pour nous, sous le signe des humanités numériques, parce que je pense que les humanités numériques, au-delà de la question de la traduction automatique, ça reste aussi une autre question, sont jusqu'à présent trop pensées dans une espèce de binarité entre procédés qualitatifs et quantitatifs, c'est-à-dire il y a cette guerre, oui, les humanités numériques sont mauvaises parce que ce n'est que compter les mots, si on veut, et ce qu'il nous faut, c'est quand même la vraie recherche qualitative qui fait des arguments. Je simplifie horriblement, mais il y a quand même ce propos très, très clairement, en tout cas en ce qui concerne la littérature-wissenschaft. Et je pense que ce qui pourrait être très intéressant, c'est justement de combiner ces deux attitudes, et je pense que la traduction est un champ privilégié pour ça, parce que dans la traduction, on travaille toujours déjà les cas. On travaille toujours déjà le tiers, c'est toujours, on n'est jamais dans une seule langue, on est au moins dans deux. Et on a toujours déjà des strates textuelles différentes avec lesquelles il faut composer.
Et je pense que ça pourrait être un projet très intéressant d'essayer de rendre cela visible avec les moyens des humanités numériques. Donc créer par exemple une plateforme ou autre chose, je sais pas, j'invente là librement, association libre, mais quand même, donc moins que compter l'occurrence d'un mot dans différents textes, essayer de vraiment inventer d'autres imaginaires, d'inventer d'autres images de textes qu'on peut créer, par exemple, par le fait qu'on peut rendre visible le travail des strates par des interfaces intelligentes. Voilà, c'est ça. Après, je pense que Marc va parler de ça encore plus longtemps, la place de l'histoire ou retracer la vie des concepts. On l'a fait aussi dans ce séminaire beaucoup. C'était important pour moi plutôt pour, par exemple, le concept du médium, mais je crois que j'en ai déjà parlé, ou d'autres petits concepts comme le fantasme chez Freud, où on voit que le fantasme, par exemple, qu'on attribue à Freud, n'est pas du tout un mot qu'il utilise. En fait, Freud ne l'a jamais utilisé. Parle de fantaisie et qu'est-ce que ça change et pourquoi l'interprétation est donc la traduction est donc toujours déjà une interprétation, donc à nouveau on est dans le domaine de la littérature. Et actuellement, ce que je ramène d'ici et j'apporte ailleurs serait un intérêt plus accru pour des littéraires, dans mon cas germanophone, le domaine de la germanistique, qui écrivent dès le départ ou qui travaillent très, très explicitement le plurilingualisme dans une seule langue, c'est-à-dire des poètes qui mettent à l'œuvre, qui travaillent, ou autrement, qui déstabilisent peut-être l'idée d'une langue maternelle et d'une langue étrangère, qui montrent en quoi la langue maternelle est toujours déjà aussi une autre langue parce qu'elle nous devient étranger par moment, et qui mettent ça, qui rendent ça très productif dans leur poésie ou dans leurs œuvres fictionnelles. J'avais même apporté des simple, mais peut-être on peut le dire après ou pas du tout, mais ce sont des auteurs qui, bon, ils sont germanophones, on n'est pas germanophones ici, mais enfin, ce type de, je pense que comme ça s'ouvre plusieurs pistes qu'on pourrait approfondir autrement dans d'autres endroits avec d'autres moyens.
Bon, pour revenir, pour répondre à la même question que vous tout à l'heure, pour revenir sur ce que j'étais venu chercher, puisque je suis une sorte de passager qui est monté dans le train en cours de route aussi. On a tous des parcours. Moi, étant historien du monde ottoman et du Moyen-Orient, j'avais un intérêt pour la traduction du point de vue des objets que j'étudiais, du point de vue d'une omniprésence de la pratique. De ces passages d'une langue à l'autre, à même les archives que j'étudiais, le fait de voir des protagonistes sans cesse traduire, et le fait de devoir soi-même, en tant que chercheur, traduire des documents qu'on avait à travailler, me semblait tout ça intimement lié à une réflexion plus large sur la traduction en sciences sociales, la traduction et les sciences sociales, et ainsi de suite. Donc tout ce que vous avez souligné dans vos propos liminaires. Et donc, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, on y reviendra avec différents cas de figure. Il y avait ce rapport entre les pratiques de traduction et les formes de sciences liées à ce qu'on appelle en France les aires culturelles, aux États-Unis les area studies, en Allemagne regional Wissenschaften. Donc, les Allemands font toujours les choses différemment. Ils appellent pas ça des aires, ils appellent ça des régions. Mais bon, c'est toujours un peu une métaphore. Le principe était donc de voir s'il y a des singularités ou pas, de s'interroger sur des formes d'universalisme inhérentes à la question de la traduction, aussi bien comme science que comme éthique et comme aussi intimité finalement, comme pratique intime. Juste pour rebondir sur, je vais revenir sur ces aspects, je ne sais pas à quel moment, parce que on suit notre fil, mais on ne veut pas aussi oublier de donner la parole tout à l'heure à des projets qui sont développés, tels que Chloé, Catherine et Nesrine pourraient nous en parler. Mais juste pour revenir sur un parti pris, selon moi, du séminaire, ça a été de... j'emprunterai un texte intéressant de Jean Lacoste sur... Goethe et la tâche du traducteur, en mettant entre guillemets tâche du traducteur, puisque bien sûr c'est un emprunt au vocabulaire de Walter Benjamin, dans la revue Romantisme en 1999, qui comprenait un dossier intitulé « Traduire au XIXe siècle ». Et il y a notamment un passage où, revenant sur... Enfin, Goethe est l'auteur, entre autres, évidemment, de, ben, c'est l'un de ceux qui ont posé le problème de la littérature mondiale ou même formulé la question de la littérature mondiale dès le début du XIXe siècle. Et donc sur cette question d'une littérature comme coexistence de plusieurs langues, finalement, sur laquelle tu revenais. Et puis il a écrit quelque chose qui contraduit selon les cas. Alors là, j'ai pas le... Est-ce que je retrouve le titre original ? Enfin, c'est le divan d'Orient et d'Occident, le divan. Ça n'a rien à voir avec la psychanalyse, a priori. Hein. Ça, c'est la notion vraiment arabo-persane ou même turque, donc ottomane, pour revenir à mes moutons, du divan, c'est-à-dire du recueil, du lieu où on collecte un certain nombre de membres de quelque chose. Donc ça peut donner lieu à la notion politique de divan comme conseil, à forme d'assemblée au plan politique. Et puis là, en cas présent, c'est le recueil notamment de poèmes ou d'autres formes littéraires. Alors après, il y a l'interface entre le social, le sociable et la lecture éventuellement solitaire où des auteurs vont recueillir sous forme de recueil précisément, sous forme de divan, qu'ils définissent comme un corpus en fait. Donc voilà. Et Jean Lacoste, dans ce texte, revient sur le lien entre ça et la question chez Goethe de la métamorphose et du problème de faire de la traduction simplement un membre d'un ensemble beaucoup plus large défini par la capacité à se métamorphoser, que ce soit dans l'ordre animal, dans le monde des plantes, dans la nature ou dans la création littéraire et artistique. De ne pas penser la traduction comme un ordre sui generis complètement séparé, mais de le penser comme au sein d'une gamme de possibilités. Et donc, la traduction fait partie d'un ensemble de choses qu'on peut penser de manière similaire en les substituant les unes aux autres. C'est une variété concrète, une variété surtout littéraire, mais pas que, d'un type d'événement particulier qui serait la métamorphose. Donc je trouve ça intéressant parce qu'il me semble que le séminaire, finalement, en instance, a aussi appliqué cette formule en ne bornant pas la traduction à tel ou tel angle d'approche, en laissant se développer des jeux d'association et de métamorphose entre les différents participants. Donc j'espère que ça aura fonctionné comme ça pour vous. En tout cas, il me semble que ça, de ce point de vue-là, ça n'a pas été décevant. Après, on peut toujours voir que l'application de ce principe fait basculer dans une forme d'hétérogénéité ou de forme un peu hétéroclite et que la charge de la reconstitution d'une totalité incombe à chacun. Donc, c'est un petit peu une manière de se décharger du plan d'ensemble. Mais le système me semble inspiré par un peu cette idée très, très ouverte et très métamorphique de la traduction. Et je pense que, pour revenir simplement à la notion de divan, je pense que ce que ça a d'intéressant, c'est que quand même dans beaucoup de séances, on a suivi la pente qui est celle qu'on a beaucoup de nos jours dans les travaux en sciences humaines, de penser la traduction en lien avec des trajectoires, avec comme une opération de passage, de transfert, donc quelque chose qui se définit et qui, dont la trace propre s'efface en même temps que le parcours, enfin que le passage de A à B se fait. Et c'est quand même une question qu'on peut se poser, des traces que laisse la traduction dans le réel, en un sens. Et l'idée du recueil, l'idée du divan comme recueil, le travail de Goethe mis sur l'idée d'aujourd'hui de l'édition bilingue, finalement, mais l'idée de recueil, justement, prend un peu à contre-pied. Enfin, penser la traduction comme recueil, ça serait l'idée que la traduction laisse plus de traces en tant que telles que simplement elle n'affecte des champs linguistiques hétérogènes en s'effaçant elle-même. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plus au cœur de la traduction que les choses se passent et non pas de part et d'autre au niveau du point A et du point B. Mais le problème, c'est effectivement au plan aussi bien de la pensée et puis de la, de la, de l'activité éditoriale, puisqu'on a beaucoup quand même posé ce problème, de la, des formes de travail et de professionnalisation qui sont associées au monde de l'édition. On a aussi affaire à une pensée de la traduction comme ne devant pas laisser de traces. Le bon traducteur est un, comment on avait dit, un traducteur invisible. Enfin, il y a tout ce principe de le traducteur travaille et à la fin, on a la traduction, enfin, l'ouvrage traduit par, éventuellement en oubliant le nom du traducteur dans certains cas sur, au niveau des références. Et donc, il y a quand même quelque chose qui efface les traces de la traduction. Je repasse la parole.
En fait, je vais peut-être juste compléter sur d'où moi je suis partie, puisque vous l'avez évoqué tous les deux. J'aime beaucoup aussi, Francisca, quand tu as évoqué le statut de la méthode et la littérature comparée, puisque moi j'ai fait aussi de la littérature avant. Et dans mes souvenirs d'étudiante, je n'ai pas le souvenir que la littérature comparée était vue sous l'angle de la traduction. On était quand même plutôt sous l'angle des auteurs. On étudiait Kafka. Bon, d'accord, des fois on allait voir le texte allemand, mais cette question du penser en langue, elle ne me semble pas faire totalement partie de la tradition académique française, en tout cas pas dans les licences master de littérature. D'ailleurs, on n'a pas vraiment de. Enfin, la littérature comparée n'est pas vraiment un domaine. On a les lettres modernes, n'est-ce pas ? Donc c'est un peu différent et c'est intéressant. Ça, c'est un des stimuli de notre séminaire de considérer les questions dans différents contextes nationaux. Et déjà, entre la France et l'Allemagne, c'est complètement différent, la façon de penser la traduction. Et ça, c'était très stimulant pour moi de travailler comme ça ensemble. Moi, je suis clairement partie des problématiques de l'édition. Hein, c'était comme ça qu'on... Voilà. On s'est au départ rencontrés. Et de la même solitude que certains traducteurs ou auteurs d'entre vous, c'est-à-dire être la seule à la maison d'édition de l'HESS à me poser ces questions-là, puisque les autres étaient en train de faire des livres. Et moi, j'essayais de faire venir des textes étrangers chez nous et de trouver les moyens de les publier, soit de faire traduire nos livres à l'étranger. Donc, effectivement, dans l'idée que ce processus, pour reprendre ce que vous disiez, M. Barbier, qui est souvent minoré, surtout en France, de l'idée que ce n'est pas si important que ça, en fait, de faire traduire les textes. Voilà. Donc, c'est ce paradoxe toujours qui m'a habité d'essayer de comprendre pourquoi, alors qu'on parle d'internationalisation de la recherche, pourquoi la traduction reste un processus minoré pour lequel il n'y a jamais assez d'argent et qui apparaît toujours comme superfétatoire et compliqué, etc. etc. Donc, là-dessus, c'est vrai que c'était bien de sortir des problématiques de l'édition et d'envisager effectivement à la fois ce dont tu parlais, Marc, de la traduction d'une façon encore beaucoup plus large comme mode de pensée, et puis dans des contextes qui ne sont pas forcément ceux des sciences sociales et humaines actuelles, mais de la question des savoirs d'une façon beaucoup plus large, et aussi de sortir des problématiques du contemporain. Donc ça, je pense que c'était aussi intéressant pour la réflexion commune, et c'est des choses qui peuvent... si on continue à être vraiment des points importants, de savoir que regarder des situations passées peut nous apporter un éclairage totalement autre sur l'évolution de l'édition électronique aujourd'hui, ou bien nos problématiques sur l'anglais, langue des sciences sociales, parce que c'est devenu maintenant le point de presque tous les débats, en fait, le problème de l'anglais comme langue unique. Bon, d'accord. Mais souvent, est-ce qu'on va apporter quelque chose de nouveau en restant toujours sur ces objets, ou les regarder de biais, est-ce que ce n'est pas plus intéressant ? Voilà. C'est tout ce que je voulais dire pour compléter. Peut-être on peut passer à la question de tout ce qui s'est passé autour du séminaire et donner la parole à nos invités. Je ne sais pas qui veut commencer. Donc
Oui, alors pour respecter un peu ce volet de faire la sociologie des traductions, peut-être il faut que je dise un mot sur mon parcours aussi, comment je suis venue ici dans ce séminaire. Et ça serait très culotté de dire que j'assistais régulièrement. Donc cette année, j'avais un emploi de temps très, très chargé. Mais je suivais les titres, je savais qu'est-ce qui se passait dans ce séminaire. Et j'ai suivi assez régulièrement la première année. En fait, moi, je suis linguiste de formation. Donc j'ai fait une thèse de doctorat en sciences du langage. Et dans la morphosyntaxe très, très formelle, en fait, qui ne parle pas directement de la traduction. Mais on est confronté dans cette tradition épistémique à faire la traduction tout le temps. C'est-à-dire, même pour un exemple, un simple exemple, on doit faire 3 lignes de glose et puis de traduction. Et on est même censé traduire les suffixes et les préfixes et tout ça. Et j'ai très tôt compris que la traduction, elle est très impliquée en linguistique, même si... Oui, alors, je suis arabophone, je suis syrienne, et j'ai travaillé sur les langues sémitiques en général dans ma thèse, surtout sur l'arabe. Donc c'était alors une question à la fois ignorée, c'est-à-dire on ne la formule jamais, on ne parle jamais de traduction, en tout cas les linguistes méprisent tout ce qui est en dehors de la linguistique formelle, donc traduction, FLE et tout ça, c'est pas vraiment de la science. Parce que ce n'est pas falsifiable, c'est très impressionniste, on peut dire n'importe quoi. Mais la traduction était là tout le temps, et je l'ai compris. Après, les conjonctures de vie ont fait que j'ai été à un moment donné enseignante de traduction, parce que j'ai enseigné à Damas, en Syrie, et à Homs aussi, à l'Institut de traduction et d'interprétation. En tant que francisante, si j'ose dire, je pense que ça existe comme terme. Donc j'ai enseigné la traduction et la traductologie. Donc j'ai fait ça un peu d'une façon didactique, disons. Et par la suite, j'ai traduit aussi. Donc ça m'a fascinée, j'ai commencé à traduire. Mais la traduction, c'était un besoin immédiat, pas un besoin... économique, mais un besoin de transfert d'idées. Donc, le résultat, c'est que je suis linguiste et traductologue un petit peu et traductrice en même temps. Quand je suis venue à l'EHSS en 2016, donc j'ai connu, alors je pense que c'est un Madelin que j'ai connu au départ, c'était pour présenter aussi la traduction de Durkheim en arabe, qui a été traduit par une collègue à moi. Et j'ai connu ce séminaire. Alors, ce qui m'intéressait surtout, c'est de voir de près ce qui se fait en traduction et comment on formule méthodologiquement ça. Pour moi, c'était très flottant, en fait. Très, très intéressant, mais en même temps flottant. Ça, c'était l'intérêt de départ. Mais d'autres intérêts ont émergé dans le parcours de ce séminaire. Donc, j'ai connu des ressources, en fait. J'ai découvert à travers ce séminaire de ressources, comme par exemple, je donne un exemple très concret, la base de données à propos des traducteurs et des traductions en arabe qui était présentée par Mohamed Souri Janjal à l'université, qui est dans la fondation de Roi Abdelaziz. Donc, pour moi, c'était une plateforme très intéressante parce que ça donne une vision plus claire de ce qui se passe dans la traduction entre l'arabe et les autres langues, en sciences sociales surtout. Dans cette base de données, il y a aussi on donne une idée aussi des traducteurs. C'est un travail qui est en cours. Les trajectoires des traducteurs et leur achèvement aussi. Et c'est très intéressant comme ressource. Un autre exemple, par exemple, via ce séminaire, j'étais dans une rencontre pour laquelle Anna m'a invitée, la rencontre des éditeurs franco-arabes. Et ça aussi, c'était très intéressant, parce qu'on peut voir de près comment ça se passe dans le monde d'édition et de traduction entre l'arabe et le français. Et quel type de contraintes économiques et financières posent sur les éditeurs et qui contraignent par la suite des traducteurs aussi leur statut et tout. Donc, c'est dans ce sens-là, c'était une source de connaissances très, très dans le sens primaire de ressources. Mais cela m'a permis aussi, donc le séminaire, de comprendre mieux le lien entre praticiens, traducteurs et le monde de la recherche. Donc, j'ai compris à quel point la pratique de la traduction est importante si on veut faire un propos réflexif sur la valeur épistémique de la traduction. Donc le rôle des traducteurs est très important. J'ai voulu, alors peut-être ce n'est pas très approprié de le dire, mais je vais le dire quand même parce que c'était très important pour moi. Les conjonctures, les hasards, je ne sais pas, et Francisca organisent des résidences, des mini-résidences de traduction en Italie. Donc c'est une coopération franco-allemande où on invite des traducteurs et des chercheurs en traduction pour réfléchir. Et j'étais invitée comme traductrice de Maurice Olvax, La mémoire collective, dans une résidence à Villa Vigoni. Et cette résidence, en fait, m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Alors, parce qu'on a rencontré des philologues, des traducteurs, des chercheurs, des philosophes aussi. Donc, j'ai vu de près que les propos ne sont pas si impressionnistes que ça quand on parle de traduction. Donc, il y a vraiment une valeur épistémique à faire lever de la traduction qu'on pratique. Mais j'ai compris quelque chose qui, c'est le plus valeureux pour moi, ce que j'ai appris, c'est que les systèmes symboliques, en fait, où les langues sont inscrites, donc entre langues européennes et langues périphériques, les systèmes aussi, c'est-à-dire les traditions aussi épistémiques, les traditions de connaissances, comment on raisonne, comment on argumente entre les traditions de connaissances, sont très cloisonnées. Même si on a cette volonté de voilà, inviter quelqu'un qui a traduit Maurice Olvax en arabe. C'est très beau, mais ça reste très cloisonné. C'est-à-dire on n'écoute qu'un seul langage. C'est le langage très centrique européen quand on parle de ça. C'est ce que j'ai appris de cette résidence. Et je t'en remercie parce que c'était très important, en fait, cette résidence. C'est que ce séminaire m'a permis aussi, là, on peut parler de perspectives et de projets, c'est de faire confiance à mes intuitions aussi. C'est-à-dire j'avais des intuitions sur... par exemple, ce côté sociologie de la traduction, trajectoire, transfert des idées, médiateur d'idées, j'avais une intuition, mais très vague. Parce que je pense que j'ai aussi ce sens sociologique sur la traduction, mais je n'étais pas très claire dans ma tête. Et ce séminaire, ce que j'ai écouté, surtout quand on a écouté ce traducteur turc, Alin Alko, dont j'ai oublié le nom, j'ai compris que, je ne sais pas comment il s'appelait, que mes intuitions, en fait, ne sont pas fausses. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose entre la politique et la traduction. Et j'avais cette idée parce que j'ai vécu intensément le conflit syrien et je suivais de près ce qui se passait dans les sphères politiques et dans les idées, comment les idées circulaient. Et je voyais que parfois, le transfert des idées se fasse à travers une personne. Ça peut être une personne qui traduit ou qui propose la traduction. Et du coup, on a un intérêt, un attrait pour une idée ou pour des idées politiques. À la base de cette intuition qui se confirmait, et quand j'écoutais les gens et tout, j'ai rédigé un projet de recherche, en fait. Sur l'histoire des idées. Donc, c'est une interface entre l'histoire des idées politiques dans la Syrie contemporaine, la traduction, l'étude de la sociologie des textes et des traductions, et le conflit. Et je l'ai proposé même comme candidature à l'école. Par ailleurs aussi, cela m'a permis de comprendre le rôle des traducteurs, comme je viens de le dire. Donc, j'ai voulu aussi faire... donc, il y a des traducteurs autour de nous et des étudiants exilés à l'école, dont des étudiants arabophones, syriens. Et parmi eux, il y a aussi des traducteurs professionnels, donc qui ont pratiqué déjà la traduction entre l'anglais et l'arabe. Donc, j'ai voulu fédérer cette énergie, en quelque sorte, vaguement au départ, pour faire un projet de traduction en sciences sociales, qui valorisent leur langue cognitive, la langue de réflexion intellectuelle, leur langue cognitive qui est l'arabe, et leurs connaissances, et valoriser aussi des perspectives de métier pour eux, dans le cadre de l'école. Je pense que c'est un petit fiasco, ce projet, parce que l'institution n'est pas très flexible pour aider, et je n'avais pas toutes les ressources pour mettre en œuvre un projet complet. Mais ce que j'ai pu faire, c'est d'organiser un séminaire qui est intitulé Atraf, atelier de traduction de réflexion entre l'arabe et le français. Et Atraf en arabe, ça veut dire périphérie ou membre extrême du corps. Et ces gens, en fait, ils sont très loin de leur pays natal. Donc, je vais aussi faire rappeler ce fait. Et dans ce séminaire, on essaye de faire... d'ancrer une pratique de traduction, on discute des textes et comment on les traduit. En même temps, on fait une réflexion théorique, on invite des gens. Et Anne et Francisca étaient parmi nos invités. Voilà. Donc, et puis les rencontres aussi, qui sont très importantes, parce que, comme on sait, dans les trajectoires des traducteurs, les rencontres et les hasards font beaucoup de choses. Donc j'ai fait beaucoup de rencontres très précieuses. Moi, je ne suis pas déçue. Je suis déçue de l'institution, mais pas du séminaire. Merci.
Je vais reprendre à la question initiale qui a été posée aussi à la salle. Donc, à savoir, ce que je suis venue chercher ici. Moi, je suis venue du monde de la recherche. J'ai fait une thèse en sciences politiques. En plus de faire la TERRA et toutes les activités annexes qui vont souvent avec la thèse et la fin de thèse, j'ai commencé à faire un petit peu de traduction par-ci, par-là. Voilà. Et à la fin de la thèse, je me suis dit que j'avais envie de souffler aussi et que peut-être, plutôt que de me lancer dans un processus de recherche de fin, de postdoctorale et tout ça, je ferai un petit peu de traduction. Et après, j'ai découvert que, en fait, cette activité, ce métier qui me permettait de combiner à la fois l'amour de la recherche et l'amour de ma langue natale, qui est vraiment très, très vif. L'anglais. Oui, pardon. était, en fait, vraiment une formidable découverte. C'était vraiment, pour moi, c'était un peu... je me suis un peu retrouvée quelque chose qui me donnait de l'énergie en fait, en tant qu'activité activité professionnelle qui était stimulante, tout ça. Par contre, cette activité avait un très grand effet négatif qui a été soulevé par plusieurs traducteurs dans la salle tout à l'heure, c'est que c'est extrêmement isolant. En fait, je me suis retrouvée tout seule avec les contacts avec les clients avec qui je travaillais. Étaient essentiellement des chercheurs que j'avais connus en tant que chercheur, un pré-chercheur. En fait, j'avais aucune visibilité sur ce qui se passait dans le monde de la traduction, ce qui se passait dans le monde de l'édition, d'où venaient les subventions. J'ai découvert que du jour au lendemain, la subvention qu'on pensait avoir, en fait, elle n'était pas disponible. Donc, du coup, les projets, ils n'allaient pas pouvoir se faire. Les projets de traduction à long terme... des revues qui étaient financées par un tel ou tel organisme, finalement, l'année prochaine, il n'y en aura plus, donc il ne faut pas compter dessus. Et je me suis dit, en fait, je ne vais pas pouvoir faire ça si je n'ai pas une meilleure visibilité de ce qui se passe, de comprendre comment le système fonctionne. Et du coup, je pense qu'à un moment donné, j'ai commencé à changer avec Chloé. Et elle m'a dit, en fait, il y a un séminaire à l'OHSS où on essaye de réfléchir à des questions non seulement des questions autour de la traductologie, de l'épistémologie de la traduction, mais aussi des questions plus pragmatiques, comment ça fonctionne, le système éditorial de traduction, la circulation d'idées internationales. Et je me suis dit, je pense que j'ai écrit un mail un peu « Je peux plus venir à votre séminaire !» Et du coup, c'était super pour moi de trouver cet espace qui était vraiment un espace pour moi de rencontre, comme vous avez dit, d'autres gens qui travaillent dans le même domaine, qui sont éditeurs, qui sont traducteurs, qui sont professionnels, ou qui sont chercheurs, qui travaillent sur la traduction, et donc d'échanger d'idées, et aussi d'être accueilli, comme a dit Charlotte, je crois, accueilli dans un espace de recherche, pas comme un sous-traitant, pas comme quelqu'un qui travaille de manière purement pragmatique. Enfin, voilà, c'est pas. Il y avait une vraie reconnaissance du travail de la recherche qui est implicite dans un travail de traduction en sciences sociales, en fait. Et cette reconnaissance était très importante pour moi à un moment où je commençais à me demander si voilà. Donc je suis au début venue chercher en fait ça, chercher un contact humain, un contact intellectuel, une stimulation intellectuelle autour de la traduction comme activité de recherche et une activité professionnelle. Et sur ce point, j'ai été amplement satisfaite. J'ai trouvé ça une expérience très très riche. Je pense aussi que le séminaire a fourni un espace, ou a créé un espace qui est très important pour les. Bon, je parle au titre personnel, mais je pense pour d'autres traducteurs professionnels, c'est très important de pouvoir avoir un endroit où on peut venir réfléchir de manière plus abstraite aussi sur les problématiques qu'on rencontre au cours de notre activité. Parce que quand on travaille sur la recherche et dans la recherche, il faut cette stimulation, en fait. C'est comme une formation continue. Si on n'est pas constamment impliqué dans le monde de la recherche et dans les évolutions qui sont de plus ou de loin sur les problématiques dans lesquelles on travaille, c'est difficile de se revendiquer statut de spécialiste. En fait, il faut garder cet appétit pour la recherche, en fait, et cette stimulation intellectuelle en permanence. Et du coup, c'était vraiment très important. Et je pense que c'est très important, en fait, d'avoir un espace comme ça qui permet aux traducteurs professionnels et aux autres acteurs qui ne sont pas chercheurs d'avoir un espace d'échange d'idées. Et peut-être aussi vice-versa, parce que comme ce qu'on a découvert un peu dans les discussions, dans la séance qu'on avait fait où on a présenté la thèse pour la première fois, moi, ce que j'avais un peu ressenti, c'était qu'il y a aussi un besoin peut-être de regard dans l'autre sens, en fait, d'échange des chercheurs qui ont besoin de faire traduire, qui ont un intérêt pour la traduction et qui aurait besoin d'un espace où on peut partager avec des traducteurs pour savoir comment ça se passe au concret, en fait, qu'est-ce qui est raisonnable d'attendre des traducteurs, des choses comme ça, en fait, et de réfléchir sur cette activité-là, de la perspective des chercheurs. Donc, voilà, je pense que ça serait vraiment très, très bien si on arrivait à trouver une forme ou une possibilité de continuer cette dynamique dans un autre, sous une autre forme. Parce que je pense que vraiment, il y a un besoin. Enfin, ce qu'on a entendu dans les propos introductoires, c'est qu'effectivement, le séminaire a vraiment répondu à un besoin, à envie de plusieurs types d'acteurs qui se sont retrouvés ici et que du coup il aurait eu lieu de continuer sous une autre forme. Voilà.
Voilà. Donc, ok, pour reprendre encore la première question. En fait, moi, je travaille avec Anne aux éditions de l'EHESS. Et en fait, moi, je suis la secrétaire de rédaction pour la version anglaise d'une revue éditée par les éditions Les Annales. Et en fait, voilà, j'ai un parcours de médiéviste. Je travaille sur l'anglais du Moyen Âge, donc à un moment où voilà, l'anglais n'était pas la langue dominante, peut-être qu'elle est aujourd'hui. Donc, j'ai toujours été intéressée par le plurilinguisme, les interactions entre des langues, comment ça marchait. Et du coup, ce séminaire aussi, quand Dan m'en a parlé au début, ça m'a permis de mettre plusieurs choses ensemble. que voilà, j'avais mis ensemble moi-même et de façon un peu informelle et de formaliser quelque part cette réflexion, ce que ça veut dire de traduire, de publier, surtout en tant qu'anglophone. Travaillant vers l'anglais, en fait, je fais partie d'un mouvement voilà, qu'on a beaucoup discuté dans ces séminaires, en fait, ce que ça veut dire, publier en anglais, traduire vers l'anglais. Et en fait, ce séminaire m'a permis de sortir de ça tout en réfléchissant à ce que ça veut dire traduire vers l'anglais. Et en fait, juste ce matin, j'ai relu les programmes des trois cycles. Et en fait, je me suis rendu compte que, en tant que traductrice, éditrice travaillant vers l'anglais, c'était génial de pouvoir échanger, écouter un traducteur qui travaillait entre le français, l'arabe, le français et le turc, et qui était tout à fait dans un autre dispositif que moi, où je suis plutôt confortable en travaillant vers l'anglais en France, en fait, que voilà, il y a quelques enjeux politiques, mais on n'est pas en situation de guerre, on n'est pas en situation de lutte, on n'est pas en situation où on nous dit que, en fait, le livre qu'on veut traduire, en fait, si on nous dit qu'on ne peut pas traduire le livre qu'on veut traduire, c'est pour les raisons commerciales plutôt que les raisons politiques ou de censure. Et du coup, ça m'a permis de réfléchir à mes propres pratiques, à ma propre position, à mes propres attitudes du métier que je fais. Voilà, je voulais aussi souligner, j'avais plusieurs sortes de séminaires que je voulais souligner. En fait, il y a surtout, en fait, j'ai commencé à venir au début parce qu'il y avait ce mélange d'acteurs d'édition, de chercheurs. J'ai trouvé ça très intéressant comme point de rencontre. Et du coup, voilà, avec les documentalistes, avec les bibliothécaires, avec des éditeurs, avec des chargés de droits, ça m'a permis d'avoir une vision plus englobante du métier de l'édition par le biais des langues, en fait. Et je pense que ça, c'est très important aujourd'hui. C'est très intéressant pour moi. Ensuite, j'avais souligné cette espèce de mélange de langues et de positions et de place de traducteur dans les dispositifs de traduction. Et dernièrement, la troisième chose qui m'a frappée en relisant le programme, en fait, c'était les séminaires, par exemple le séminaire sur la lingua franca ou le discours que Marc nous a fait sur la traduction administrative au monde ottoman. En fait, c'est les langues dans lesquelles j'ai aucune compétence, des choses, je ne connais rien du tout. Et en fait, c'était passionnant d'avoir cette perspective historique qui mettait en contexte nos pratiques aujourd'hui, notre quotidien, et qui l'historicisait. Voilà, donc c'est un peu ça que j'ai tiré du séminaire. Et ensuite, on peut peut-être parler ensemble des projets qui sont. Voilà. Donc, comme plusieurs d'entre vous le savez déjà. En fait, notre association, l'ATES, a un peu, je pense que moi et Catherine, on avait beaucoup échangé par mail, mais cette séminaire, c'était la première fois qu'on s'est rencontrés personne, oui.
Et ça vient aussi du séminaire, dans la mesure où les séminaires, nous avons déjà, on s'est rencontrés avec Anne, on a discuté, on s'est dit, voilà, d'avoir une association pour les traducteurs qui sont spécialisés en sciences sociales, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de visibilité. Justement, ce que Marc a dit par rapport à l'invisibilité en fait, des traducteurs et de la traduction comme métier, parce que finalement, c'est un peu comme, je sais pas, on m'avait dit une fois que c'est comme le théâtre, en fait. Traduction, on est censé être invisible. Si on nous voit, c'est qu'il était mal fait. Donc oui, c'est important, mais de l'autre côté, c'est pas parce que la traduction est invisible à la lecture, on est inconscient de la traduction, qu'en fait on doit oublier le travail qui est derrière, ou on doit oublier l'acteur et le report de l'acteur avec les autres acteurs. Donc ça nous a amené à réfléchir à voilà les types d'organisations imaginées qui permettent d'attirer peut-être un peu plus de visibilité vers ceux qui travaillent, que ce soit en tant que chercheur, ou que ce soit en tant que professionnel, ou commanditaire, ou éditeur.
qui était quelque part une extension de, d'espace qui a été évoqué tout à l'heure, où les traducteurs en sciences sociales qui ont souvent un parcours en recherche, qui ont souvent fait des thèses ou qui travaillent dans des labos ou qui ont d'autres liens avec le monde de la recherche, de garder cet espace où ce genre de traducteur qui n'est pas forcément la même ou qui a peut-être certaines spécificités pour développer ces interchanges, ces échanges et voilà, de continuer à développer cet espace.
Donc, on a avec d'autres étudiants dans la salle, on a monté cette association qui s'appelle ATES, donc l'association de traducteurs et éditeurs en sciences sociales, et donc on a incorporé l'éditeur aussi parce que ça nous a semblé important de reconnaître différentes fonctions dans cette chaîne de production qui sert en quelque chose qui vient aussi du séminaire, parce que c'était dans la rencontre entre les acteurs que voilà, en fait, et justement, comme a dit Francisca, en fait, parce que tout le monde, souvent, on est plusieurs choses. Oui. On n'est pas juste traducteur, on n'est pas juste chercheur, mais voilà. Et donc, de reconnaître cette pluriactivité, en fait. Donc, pour moi, c'est vrai que ça, c'est un des plus grands. Les apports aussi du séminaire, ça a été ça, c'était de permettre la rencontre entre les gens, cette association qui est encore petite, mais qui grandit et qui suscite l'intérêt, et je pense que ça reprend.
Beaucoup de fleurs pour notre séminaire. Merci beaucoup.
Moi, je voudrais dire que l'association, c'est vraiment quelque chose de formidable. Je pense que vous allez jouer un rôle parce qu'il y en a besoin. Et les associations de traducteurs généralistes l'ont dit. Olivier Manoni, dans la soirée qu'on a fait sur la valeur de la traduction, l'a bien dit que c'était important qu'il y ait maintenant des associations de traducteurs spécialisés, puisque le système de l'édition scientifique est quand même différent. Et donc ça, c'est super, super important. Plusieurs personnes ont dit que le thème commence à être présent dans de nombreuses petites niches, cette question de la traduction des sciences humaines et sociales. Le HESS n'était pas forcément en pointe sur les questions, mais c'est vrai que maintenant, on sent que ça va venir. Enfin, j'ai juste appris ce matin que sans doute, il y aurait un projet plus important de traduction vers le français. Enfin, avec des financements de la présidence. Enfin, voilà, il y a des choses qui vont arriver petit à petit. Donc, ça prend du temps, mais ça va venir quand même. Ça, c'est super important. Donc, il ne faut pas du tout baisser les bras, à mon avis, sur l'association. Hein. Ça. Plus de membres. Donc, appel aux membres. Ouais. Ouais, moi, je veux juste dire, juste pour répondre aussi à Nisrine, le texte de Monsieur Yann Jark, donc on a écouté, que plusieurs personnes ont mentionné, il nous a envoyé très vite un texte de sa conférence, un peu étoffé, et donc ça devrait paraître sur le site Politica. Voilà, donc ça c'est super bien. Sur la question du lien entre pratique et recherche. La parole de la pratique, que tu as dit super bien. Je pense que ça, c'est, enfin pour moi, c'était très très important, et je pense que c'est essentiel parce que c'est pas forcément légitime, même ici. Enfin, on en a parlé plusieurs fois. Et donc, il faut absolument travailler cette question, et je pense qu'on aura gagné quand ce sera une parole complètement légitime. Voilà, sur la question de la traduction, mais sur d'autres aussi. Sur la périphérie, ce que tu as évoqué, membres périphériques, également, oui, les textes devraient paraître aussi sur Politica, les textes que vous traduisez. D'accord. Bon. Ah. D'accord. Bon. Ok. Donc périphérique, donc enfin entre guillemets périphérique, on en a parlé plusieurs fois. Moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Je vais juste vous dire que pour ma part, je quitterai le HESS à partir de septembre et je serai à l'INALCO. Donc, je fais un peu le parcours inverse. J'ai eu un poste d'enseignant-chercheur et donc dans un endroit où on enseigne les langues périphériques. Donc, j'emmène avec moi les problématiques. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on aura beaucoup de choses à faire encore sur ces questions. Enfin, et je pense qu'à l'INALCO, il y a aussi beaucoup de choses qui vont se développer sur cette question de la traduction des sciences sociales et les contextes de langues autres que l'anglais, l'allemand, l'espagnol. Donc, on continuera de toute façon là-bas. Voilà. Tiens.
Par rapport à ce que Francesca disait sur les archives des traducteurs, je me demande du coup si, en tant qu'association, par exemple, vous n'auriez pas intérêt à préparer, à avoir une politique d'archives ou d'archivage, parce que ça s'inscrit dans ce que je disais aussi tout à l'heure sur les traces, c'est qu'il y a une vraie découverte, je pense, à faire dans les archives pour ceux qui travaillent comme ça, par rapport au, pas que pour l'historien évidemment, puisqu'on peut travailler sur des archives avec plein de méthodes en tête, et si on n'a pas ça, on peut pas faire le travail que, par exemple, les praticiens de la génétique textuelle ont pu faire sur des œuvres. Donc ça serait intéressant de faire une sorte de...
Oui, tiens.
Question, ou même si on n'a pas, même si on développe pas un cahier de charge ou une pratique uniforme, juste se poser la question.
Ça va avec les archives. La Fondation Bosch, qui sinon a supprimé toute sa politique de subvention culturelle, a quand même maintenu un projet qui est celui qui s'appelle Toledo et qui est censé de financer des résidences de traducteurs. Et ils ont mis en ligne, c'est encore en allemand, mais peut-être qu'ils vont le pluraliser aussi, des carnets de travail des traducteurs, c'est-à-dire les traducteurs qui sont en résidence, sont tenus de faire un cahier de travail numérique en ligne, ce qui est très intéressant et très drôle d'ailleurs, parce qu'encore une fois, c'est une approche un peu différente. Mais en même temps, ça permet, encore une fois, pour la visibilité ou pour créer des visibilités, c'est très intéressant parce que, du coup, ce sont souvent des gens qui travaillent sur les archives, pas des traducteurs, mais autour des œuvres qu'ils traduisent et qui mettent en ligne leurs notes de travail, mais aussi les images, des photographies, ce qui les inspire autour, les environnements dans lesquels ils travaillent. Ce qui donne, c'est très inspirant si on cherche vraiment à prendre au sérieux la rhizomatique, c'est pas le travail rhizomatique d'un traducteur. Donc voilà, archives, carnet de bord, il y a des choses à faire.
Et ça, pour moi, ça me donne envie de vous demander si dans le colloque sur les archives, est-ce que vous avez un volet sur les archives du futur, en fait, c'est les archives qu'on crée aujourd'hui ou qu'on ne crée pas, parce qu'on travaille sur le numérique, et qu'est-ce qui se passe, enfin voilà, c'est nos pratiques comme des marques. L'absence de pratique d'archivage aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour les futures historiennes qui vont du coup plus pouvoir faire ce travail d'archivage voilà.
J'ai pas encore la vue d'ensemble parce que je ne sais pas encore ce qu'ils font tous. Je connais pas le programme complet de Marbach, mais non, je crois pas. Et si tu veux, tu viens et tu le feras. On a des archives classiques et qui sont sur place. J'ai pu trouver, il y a quelqu'un qui va préparer des archives audio. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait en parler. J'ai vu hier de l'INA, donc des archives de Berman, Derrida, Castan, je ne sais pas. Elle va faire un feature. Mais on n'a pas encore ça. Mais Marbach a une nouvelle direction. Ils ont complètement vers le numérique maintenant. Donc, ça serait intéressant. Oui, pour moi, je ne change pas de poste, en tout cas pas immédiatement, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert, que je trouve vraiment intéressant à travailler. Et je complète juste la liste des choses qui se sont faites quand même on a vraiment vu défiler beaucoup de monde. On a quand même participé à plusieurs nuits des idées avec des partenaires différents et toujours surprenants. Il y avait plusieurs ateliers à la Villa Vigoni et il y avait l'atelier de la Fabrique des Humanités entre Arles et le HESS. Tout cela était associé quand même à ce séminaire. Et il y avait la collaboration avec la Boulac. Et j'ai oublié quelque chose qui veulent continuer. Et bon, avec toi, ça va être très simple. Ah oui, j'ai oublié Séverine. Oui. C'est-à-dire.
Bien symbolique. Oui. Accueillera tout à fait les travaux portant sur.
Non, il y a deux projets aussi autour de la traduction. Et la question de la traduction automatique qui ont émergé un peu de toutes nos discussions. Donc il y en a une qui est portée par la revue Bien Symbolique et il y en a une qui est portée par les éditions de l'UHESS et les revues associées. Toutes les deux ont été acceptées. Tous les deux projets ont été acceptés. Il y a aussi un troisième projet sur le même thème porté par Kern, également accepté, d'après ce que j'ai compris, mais avec des modifications de budget. Bref. Donc, vous vous souvenez qu'on a plusieurs fois parlé de ces projets. De cette difficulté et de cette nouvelle donne de l'émergence et des pratiques de traduction automatique dans les pratiques du traducteur et aussi des injonctions diverses auxquelles on est soumis. Donc, pour ce qui est des éditions de l'UHESS, on a décidé de tester, de proposer un projet qui peut être aussi un projet un peu critique. Chloé, tu pourras en dire un mot. De test des outils avec un certain protocole dans les revues. Donc, la traduction du français vers l'anglais, sachant que les auteurs, de plus en plus, utilisent des outils de traduction automatique. Donc, de toute façon, les traducteurs, quand on leur demande de relire des textes ou de corriger des textes, sont confrontés à ces textes qui ont été faits en partie par des machines, en partie par des auteurs. Et donc, voilà. Donc, ce travail-là, il est déjà là, quoi. Donc, il faut prendre un peu cette matière comme elle est. Donc, ça, c'est pour le projet de l'UHESS. Pour le projet de bien symbolique, c'est un peu différent puisqu'ils ont un projet de multilinguisme dans la revue. Et le projet du ministère va les aider. Donc, ils vont tester les outils de traduction automatique vers d'autres langues, vers plusieurs langues, en fait. Donc, on va voir ce que ça va donner. Kern, je ne sais pas exactement quel est leur projet. Donc, ça, c'est aussi des projets qui peuvent intéresser complètement la communauté des gens autour de ce séminaire. Puisqu'il y a aussi des emplois à la clé. Bon, pour ce qui est des éditions de l'UHESS, il y aura un mi-temps de traducteur salarié sur ce projet. Voilà, c'était ce qui était prévu. Sachant que ce n'est pas toujours facile pour un traducteur freelance de faire un mi-temps salarié quelque part sur un projet, surtout que ça ne dure qu'un an. Mais disons que c'est un poste qui va être ouvert. Et il y aura aussi des travaux divers et variés de relecture et de tests. Et je pense que pour les autres projets, ça va être un peu pareil. Donc c'est quand même des financements qui arrivent sur des projets de traduction scientifique avec un côté réflexif. Ouais. Autre chose là-dessus. Donc, Chloé, tu veux peut-être ajouter quelque chose sur le projet
Oui, voilà, c'est un projet pour tester ces outils, mais aussi pour montrer en fait. Pour faire un colloque ou des activités scientifiques. Donc, c'est aussi un moment pour nous, en tant qu'acteurs dans ce monde, de se manifester et en fait d'étudier ces outils pour savoir comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut faire avec, mais aussi de faire valoir nos expertises et nos connaissances à nous. Donc, voilà, c'est un peu ça, c'est l'occasion. Et je suis contente que ce projet ait été accepté parce que je pense que ça va nous donner, surtout avec le demi-poste, du temps pour quelque part mettre toutes ces informations ensemble et voir ce qu'on fait avec ce que nous avons appris ces dernières années.
Voilà. Ce sera pour être aussi mutualisé, enfin, les résultats avec les autres projets.
Oui,
en fait, c'est ça qui est intéressant.
Tout à fait.
C'était juste peut-être le moment pour dire quelque chose sur notre site. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire, mais il y a toujours notre site Pensée, c'est le site du projet Pensée en langue, qui regroupe donc les activités du projet Pensée en langue, mais qui a le volet de notre séminaire avec les enregistrements. Et je pense que, vous savez, puisque le financement de la Fondation Bosch va expirer là, en fait, je ne sais pas, fin de cette année, je ne vais pas l'entretenir jusqu'à l'infini, mais je pense qu'il va encore rester là un an au moins, le temps de recouper, en tout cas de garder les archives de notre séminaire, qui vont peut-être dans la suite déménager, mais on verra ça, je pense, dans la suite. Ce que j'entends, c'est que je pense que le format le plus approprié pour continuer éventuellement serait un colloque ponctuel, mais peut-être aussi un atelier, parce qu'il y a ce besoin d'échange. Et je ne sais pas si... je pense qu'on ne va pas le décider aujourd'hui ni demain, mais qu'on va voir quelle suite pendant les choses, que peut-être qu'on créera un autre site, un nouveau site, quand j'arrêterai celui-là, que peut-être qu'il y aura quelque chose qui émergera, tu verras comment ça se trouve. Mais pour qu'on garde quand même... C'est quand même utile, non? Peut-être aussi comme pour aussi comme mise en réseau.
Alors, il y a aussi les publications.
Oui.
Donc on a publié Francisca et moi on a écrit un article qui a été lié aux problématiques du séminaire, bon, pour une revue qui s'appelle Écrire l'histoire. Moi aussi, de mon côté, j'ai publié un autre article sur la traduction dans les revues. C'était aussi un peu lié au séminaire dans la revue Tracée. C'était toutes des commandes. Et il y a quand même des demandes de la part de revues d'avoir une réflexion sur ces questions. Donc les projets dont on a parlé, ça va générer évidemment des publications. Mais il y a plein de choses qu'on n'a pas publiées. On a parlé du texte de M. Genjar, donc lui, sur la question des circulations de traduction entre français et l'arabe, qui sera publié, je l'espère quand même, assez vite, mais je ne sais pas, sur Politica. Il y a, par contre, tout le fond du séminaire, bon, qui existe effectivement en enregistrement, mais où il y aurait matière à publication, on en avait parlé. Si on fait un colloque, effectivement, là, on va peut-être le penser plus dans l'idée d'une publication, c'est-à-dire en essayant de solliciter des textes un peu écrits, et après on verra où. Mais voilà, à mon avis, il y a quand même encore des choses à penser, peut-être sur des choses qu'on a faites dans le séminaire qui pourraient mériter d'être publiées d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas si quelqu'un a des idées là-dessus. Oui, ça on va reparler. Sur les... Tu veux ajouter quelque chose sur la publication ? Non ?
Oui, bah, un autre dérivé en fait, du séminaire qui a été, on peut dire ça, qui en fait était venu de l'idée donc de cette problématique de l'importance de l'anglais dans les besoins de traduction, etc. Et donc du coup aussi de la création de l'association, c'était d'essayer de faire plusieurs ateliers de travail autour des questions de traduction plus spécifiquement franco-anglais. Et donc on en a fait deux cette année qui ont rencontré quand même un écho assez important et on voudrait en faire aussi l'année prochaine. Après du coup ça serait on ne sait pas trop encore les modalités, les dates, combien on en fera ou les thématiques qui seront proposées, mais voilà, l'idée c'est aussi de créer ce même type d'espace de rencontre de différentes personnes, alors plus spécifiquement entre l'anglais et le français, mais pas que, hein, parce que l'ATES, c'est aussi une association qui, c'est important de dire, est ouverte à toutes les combinaisons linguistiques possibles. Donc, voilà, si on peut faire des liens avec d'autres espaces qui existent pour d'autres langues, ça peut aussi être très intéressant.
À vous, peut-être la parole, parce que... Les étudiants, peut-être aussi. Des fois, on était sur des problématiques professionnelles et donc moins sur des problématiques liées à vos recherches.
Étant donné que moi, je travaille sur des textes écrits seulement en français, je ne suis pas venue dans ce séminaire pour avoir théorique qui pourrait m'aider à la recherche, mais c'était plutôt justement une espèce de volonté de découvrir ce monde particulier qui est assez invisibilisé, et aussi d'avoir une attitude un peu réflexive sur ce que c'était de faire de la recherche et de penser d'écrire un texte en fait en français, parce qu'on se dit qu'on veut faire de la recherche pour
dans une idée un peu utopique d'apporter quelque chose à une culture très commune, un peu universelle. Et en fait, finalement, on se rend compte qu'il y a cette barrière aussi des langues et cette suprématie de l'anglais. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir le penser. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'étudiants aussi qui soient venus dans ce séminaire, parce que c'est vrai qu'il y a quand même, justement, en linguistique, beaucoup de personnes qui travaillent sur des langues étrangères, mais ils ne s'attardent pas forcément trop à la traduction en sciences sociales, peut-être plus sur les questions de traduction vraiment au sein de leur corpus de recherche. Donc, je ne sais pas comment est-ce que ce serait... Enfin, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'étudiants... Oui, effectivement. Mais voilà.
Moi, c'est pas une déception, parce qu'il n'y a pas de quoi être déçu. Mais en fait, moi, quand j'ai commencé, je regardais du coup dans mon carnet à quel moment j'avais commencé à venir, et j'ai commencé à venir début 2017, donc ça devait être à peu près au début, et j'étais venue, et je venais dans ces... Il y avait une espèce de grande séance inaugurale, et moi, j'y étais allée, en fait, ça faisait... Je vais essayer de pas trop raconter ma vie, mais... J'ai fait des études de ce qu'on appelle la traduction spécialisée. Alors, spécialisée en quoi ? Spécialisée en rien, mais l'idée, c'est de la traduction à l'ISIT et à l'ESIT. On fait de la traduction pragmatique et l'idée de ensuite réussir à se spécialiser en médical, en juridique ou en autre chose, sachant que les sciences sociales, c'est un peu un impensé. Parce que, bon, notamment à l'ISIT, on essaie de nous diriger vers des secteurs lucratifs. Mais du coup, et moi, ça faisait déjà quelques années que je travaillais. J'avais toujours été intéressée par les sciences sociales en général, notamment par les études de genre, sans en avoir jamais vraiment fait autre que de façon anecdotique en marge de mon curriculum. Et je voulais traduire les sciences sociales parce que je me suis rendu compte que j'avais adoré faire mon mémoire, j'avais envie de bosser là-dedans et du coup j'ai commencé à chercher. 2016, j'essaie de comprendre comment que sont les chercheurs, donc je vais un peu à des séminaires à droite à gauche et des colloques, je ne comprends rien à ce qui se passe, c'est pas du tout des domaines que je connais. Et ensuite arrive ce séminaire qui on va parler de la traduction en sciences sociales. Miracle, c'est formidable. Donc, et évidemment, j'y vais en m'intéressant d'un point de vue théorique, mais avec la question précise, c'est comment est-ce qu'on forme un traducteur en sciences humaines et sociales ? D'ailleurs, en fait, pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez peut-être d'une personne qui levait systématiquement la main pour toujours poser la même question aux intervenants, c'était comment vous êtes venu à la traduction ou vos traducteurs ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors évidemment, j'avais une raison très personnelle, c'était, je doutais qu'il me manquait sans doute quelque chose, je voulais savoir ce que c'était. Ça m'a permis de découvrir, en grattant, parce que c'était rarement une question abordée, que même s'il y a des parcours très divers, le traducteur de sciences sociales stéréotypé, c'est un doctorant à qui on a demandé pendant ses études de faire des traductions, qui s'est rendu compte que finalement les traductions, c'était pas si horrible que ça, et qui a continué à en faire ensuite en utilisant du coup son bagage, qui était court, ou à l'inverse de ce que je faisais. Et du coup, j'ai découvert ça. Et du coup, maintenant, mon intérêt se porte moins vers c'est quoi la formation initiale du traducteur en sciences humaines. C'est généralement du coup un parcours de recherche. Mais ça va être, qu'est-ce que ce serait que la formation continue ? On sait d'où il part, où est-ce qu'il va ? Parce que, alors, je n'ai pas encore... Ce n'est pas des questions que j'ai abordées suffisamment en profondeur avec suffisamment de monde, mais je soupçonne que beaucoup de traducteurs en sciences humaines, finalement, se retrouvent à réinventer régulièrement la roue en matière de gestion terminologique, en matière de recherche, pas de recherche fondamentale, mais de recherche documentaire, en fonction des outils de traduction, notamment la traduction assistée par ordinateur, qui n'est pas forcément la traduction automatique, mais plutôt l'utilisation des mémoires de traduction. Et moi, je suis ravie que la thèse dont je suis membre se soit constituée, parce que je pense que ça va te permettre vraiment une mise en commun des ressources. Et dans l'idéal, ce serait bien qu'il y ait des ressources différentes, c'est-à-dire de l'univers de la recherche, mais aussi que les traducteurs pragmatiques, ceux qui font de la recherche médicale, ceux qui font de la traduction juridique, éventuellement des traducteurs littéraires aussi, qu'on puisse tous en fait, apporter ces compétences qu'on a pour les regrouper au lieu de rester du coup en silo. Donc voilà, c'est une réflexion que le séminaire m'a permis d'avoir.
Non,
très joliment décrit, c'est super, mais non, j'ai rien à dire, sauf que peut-être qu'au CNL, oui, ils sont en train d'essayer de développer des espaces de formation, mais il y a en même temps des guerres idéologiques justement autour de cette question, parce que est-ce qu'il y a une formation pour traducteurs en sciences humaines et sociales, c'est pas sûr.
Il y a aussi l'Atlas, là, qui, oui, est une autre association traductoritaire qui organise depuis quelques années, qui en réorganisant cette année des ateliers résidences pour traducteurs. Alors cette année, c'est sur la philosophie. Ils ont fait d'autres. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont déjà fait une formation de l'Atlas qui voudraient venir m'en parler, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une initiative un peu isolée.
Mais c'est avec eux qu'on a fait la Fabrique des Humanités, c'était anthropologie chez nous, si, oui, je ne me trompe pas. Et quand même, oui, mais l'idée de formation qui est là derrière, c'est quand même celle d'un atelier.
C'est continue, en fait.
Si on veut l'appeler comme ça, oui, c'est se retrouver, apporter son projet, le discuter. C'est ça l'idée.
Dans la formation telle qu'il l'avait conceptualisée la dernière fois, alors je ne sais pas si ça a changé pour cette année, mais... que moi j'étais super intéressée par leur projet, je me suis dit c'est génial, formation continue, pourquoi pas, sauf qu'en fait en tant que traducteur professionnel à plein temps, je peux pas prendre une semaine pour le banaliser complètement, pour consacrer à en fait ce qui revient avec des discussions, en fait c'est très intéressant, mais en fait il y a peut-être d'autres formules qui pourrait être intéressant à trouver, que ça soit plus, enfin un week-end plus intensif, ou par exemple, je pense que dans les écoles de traduction généralistes, il y a des formations intensives pour les professionnels, les traducteurs professionnels qui se mettent à jour, je sais pas quoi, et du coup c'est, je sais pas, une samedi par mois, ou enfin des choses qui sont plus compatibles avec une activité professionnelle quand on parle vraiment de la formation continue. Et je pense par mémoire, que ceux de l'année dernière qui ont participé, c'était essentiellement des traducteurs en début de carrière. Oui. Et du coup, on est plus dans, en fait, une espèce de continuation de la formation initiale qui permet un approfondissement que la formation continue. Mais je, là où je te rejoins complètement, c'est vraiment l'important. Une formation continue, d'ailleurs, ça faisait partie de la proposition qu'on avait faite sur les ateliers, c'était par rapport à quelle peut être la place des institutions dans cette formation, la place des traducteurs au sein de l'institution, et du coup, la responsabilité, entre guillemets, des organismes, peut-être comme les OHSS, dans la formation des gens qui vont...
Par rapport à ça, je pense qu'il serait important peut-être que pour les ateliers, il y ait une sorte de formalisation avec le HESS. Mm-hmm. Peut-être d'écrire au bureau de l'école, enfin aux éditions, mais peut-être d'une façon plus large, pour que le HESS, en tant qu'institution, peut-être ait une position par rapport à cette idée de formation continue des traducteurs. Je ne sais pas, t'en penses quoi?
Les créateurs initiaux, quand vous avez fondé ce séminaire, avez-vous fait une cartographie des séminaires existants? Parce que d'abord, il y a une raison, qui tient au fait que vous allez arrêter, donc je me dis qu'il faudrait que je regarde ailleurs pour aller, parce que quand je suis venu ici, j'ai trouvé des choses agréables et différentes de ce que... Donc c'est pour ça que j'ai continué à venir, mais maintenant je me dis, mais est-ce que cette fonction peut être remplie par d'autres?
C'est triste comme question, mais... Je ne sais pas trop quoi répondre.
La question du début. Ouais. Nous, on ne s'est pas posé la question, je ne pense pas. Enfin, on a supposé que ça n'existait pas, en fait, de la façon dont on l'avait pensé, parce qu'on n'était pas, nous, on était à des positions particulières de l'HESS, n'étant pas... Enfin, Francisca étant maître de langue à ce moment-là, et également sur des problématiques d'édition au sein de la FMSH, moi étant aux éditions, et donc mes objets de recherche étant un peu différents, on a fait un séminaire, on dirait, qui partait de la périphérie. Voilà. Quand on a invité Marc, on a eu un peu plus d'assises, parce qu'on était trois, et puis voilà, on était installés un peu différemment par rapport au séminaire de l'école. Mais c'est vrai que on a eu le sentiment que c'était quelque chose qui n'existait pas, notamment de partir de cette réflexion de la pratique. Mais peut-être on aurait dû regarder, effectivement.
Bah c'est plus... Oui.
Je voulais rebondir sur cette question, sur est-ce qu'il y a d'autres événements et séminaires, juste pour faire un peu de publicité pour l'association. Parce que c'est une des vocations de l'association, c'est de communiquer des événements, des séminaires. On a un calendrier sur le site web. Et donc, je vous encourage, si vous entendez parler d'événements intéressants, de nous les communiquer pour qu'on puisse les mettre sur le site web, pour que justement, voilà, on continue à pouvoir se rencontrer autour de ces questions-là.
Il y a le séminaire à Paris.
Ah oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, il y a le TRACT, qui est un labo à Paris 3. Alors, je n'y suis pas allée cette année. J'y étais l'année dernière, où c'était une réflexion générale sur la traduction. Si j'essaie de répéter l'objet exact, je vais dire des bêtises, mais c'était sur un sujet relativement proche. Et cette année, c'était plus sur l'extraduction du français vers les autres langues. Par contre, je ne sais pas du tout ce qu'ils font l'année prochaine. Mais en général, leur site web est à peu près à jour. Donc, ça vaut sans doute le coup de jeter un œil. Tract, comme un prospectus.
C'est-à-dire, moi, ce que j'observe, ou c'est mon impression tout à fait subjective, je ne sais pas si c'est vrai, c'est que, je ne sais pas s'il y a un séminaire, je ne pense pas, mais il y a quand même, c'est quand même un peu, il y a des initiatives de plus en plus intéressantes qui jouent avec ces thématiques. Peut-être pas forcément à Paris, peut-être pas forcément en France. Là, j'avais apporté aussi ce livre, c'est à Zurich, qui s'intéresse beaucoup à ça, « Zwischen den Sprachen, entre les langues ». C'est un très joli livre, ce qui est en partie aussi en français, si vous voulez le regarder. En ce moment, lundi, il y a un colloque absolument passionnant à Berlin, en anglais d'ailleurs, sur la traduction, d'un point de vue aussi... décloisonnant, si on veut. Donc, je crois qu'il y a une sensibilité accrue, ou de plus en plus accrue, en tout cas, pour cette thématique, c'est pour ce potentiel un peu autrement transdisciplinaire. Peut-être c'est une manière de congédier un peu cette idée de la transdisciplinarité pour ouvrir les domaines un peu autrement à leur dehors, je ne sais pas. Et je pense qu'il faut observer ça. Je pense qu'il y aura des choses intéressantes, mais... Mais
nous, on
a un projet, oui, mais il n'existe pas encore. C'est encore un projet. Mais il va venir, il va venir, il va venir, absolument.
Début 2020.
C'est à venir.
Sur nos problématiques du séminaire, voilà.
Oui. Je sens que ça, il y aura un trait de... on va voir. Bon, mais oui.
Donc, il y aura ce colloque, c'est sûr. Enfin... Il y aura les ateliers avec l'association, les éditions, etc. Nisrine, toi, tu continues Atraf. Donc, ça continue. Donc, Aline Alco, moi, je pense que je vais faire aussi des choses. Enfin, c'est attendu, donc... Ce ne sera pas un séminaire consacré à ça, mais certainement des ateliers. Donc, on informera tous les gens qui souhaitent. Vous qui êtes déjà sur la liste, on vous informera. Et avec la BULAC aussi, ils sont très désireux. Voilà. Oui. Donc, maintenant, voilà, le projet à plus court terme, c'était de continuer la fin de ce séminaire en allant boire un verre ensemble au café. Merci beaucoup pour tous vos retours. Hein. Je pense que c'est vraiment très, très précieux et ça nous donne aussi plein d'idées pour continuer.
Allez, bravo pour ces 3 ans, c'était formidable. Merci.